Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est un duo que nous recevons aujourd'hui. La chanteuse et flûtiste Rachel Ambredan, initiale RO, et le batteur Stéphane Avellaneda, initiale SA. RO plus SA, ça veut dire Rossa. Et donc, ils ont ajouté, en plus, ouais, parce que leurs chemins se sont croisés, peut-être aussi parce que c'est sur la route qu'ils ont appris l'art de la scène. On va leur demander. Rachel et Stéphane forment donc, vous l'avez compris, le groupe Rosaway. Et depuis le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, leur nouvel album rend hommage aux femmes à travers une dizaine de titres qui sont autant de portraits et de parcours au féminin. L'occasion aussi de revisiter au passage les codes des grands albums disco avec un son vintage des années 70-80 et une musique soul groovy colorée, métissée, blues, jazz, rock en français et en anglais. Girls, le nouvel album de Rosaway est disponible chez Roped Up Records et vous m'en direz des nouvelles. Rachel et Stéphane sont donc avec nous. Bonjour Rosaway.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Girl au singulier, c'est le titre qui ouvre cet album. Girls avec un S pour le titre de l'album entre parenthèses, ce qui veut donc dire qu'on peut mettre le mot au singulier et au pluriel, on va sûrement y revenir. Mais cette chanson, elle commence et se termine par un cri. Girl, I'm a girl, comme une manière de s'affirmer, dire qu'on est une fille aujourd'hui, c'est un cri de guerre.
Ouais, c'est un cri de guerre, un cri de revendication et un cri de... pour dire, pour qu'on nous oublie pas, pour qu'on nous voit aussi et pour qu'on nous voit toutes.
Parce que vous avez l'impression, Rachel Ambredan, d'être invisible, voire invisibilisée.
Alors je pense que c'est plutôt
facile
ça. Je pense que, alors moi personnellement, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas forcément l'impression d'être invisible, mais il m'arrive d'avoir l'impression d'être invisibilisée, oui. Par rapport à, par exemple, mon collègue en face de moi, masculin, oui.
Ouais, pourquoi pas... Mais c'est le monde de la musique qui est comme ça ou c'est la société en général?
Alors, moi, mon monde à moi, c'est celui de la musique. Et oui, clairement, le monde de la musique a une tendance, a une fâcheuse tendance à invisibiliser les femmes et à invisibiliser leur carrière. Voilà, même s'il y a des gens qui sont vent debout contre ça, donc clairement, et dont des hommes, bien sûr. Et puis, je pense que le monde, malheureusement, oui, encore un peu, ouais.
Alors, cette chanson Girl, en fait, c'est une chanson qui parle de la transsexualité, donc d'une personne qui se sent femme et qui le revendique, quel que soit le corps dans lequel elle est née. Commencer un album qui s'intitule Girls par une chanson sur ce thème-là, c'est quand même pas anodin. Stéphane Avellaneda, quelle en est la raison? Pourquoi commencer par une chanson comme celle-ci?
Alors, je pense que c'est extrêmement puissant comme message et je pense aussi que c'était... Alors d'une, c'est très important pour nous, c'est très important pour Rachel, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis longtemps, et on avait déjà écrit sur des femmes, plusieurs titres. Hein. Et je pense que là, on mettait ce point d'honneur là, à commencer l'album. Je pense que c'était j'espère que c'était la chose à faire, en tout cas.
Ouais. Rachel Ambrodane, ça veut dire que parler de tolérance, d'acceptation de l'autre, de la différence, ça fait partie de l'ADN Rosaway?
Ouais, alors oui, parce que Rosaway, c'est vraiment un projet métissé. Bah déjà parce que nous, tous les deux, on est métisses tous les deux.
On va y venir.
Et aussi parce que on vient de deux univers musicaux très différents, puisque Steph, lui, il vient du blues rock et moi, je viens de la musique classique. Et on s'est retrouvés entre les deux dans ce qu'on pourrait appeler la grande famille du jazz, qui est quand même métissée. Et puis. Mais je crois que commencer cet album par ce thème, la transsexualité, enfin nous, on n'a pas vu ça comme un défi ou quoi, mais en fait, c'est aussi se dire que ce qui fédère les femmes, c'est de se conjuguer au féminin, en fait. Et quelle que soit notre identité, qu'elle soit ethnique ou sexuel de départ.
Alors, il faut voir le clip hein, de cette chanson réalisée par Audrey plus Wandy. On voit aussi le côté vintage, hein, fin des années 70, début des années 80, ne serait-ce qu'avec le micro filaire sur pied. Hein,
complètement. Donc,
ça permet effectivement tout de suite de donner une temporalité. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette tonalité disco à cet album, Stéphane Avellaneda?
Alors, je pense que c'est des sonorités qui nous plaisent.
C'est une bonne raison.
Je pense que c'est aussi simple que ça. Je pense qu'au niveau des productions, c'est quelque chose aussi qui nous plaisait. On est très très fan des sons, des synthés de ces années-là, fin des années 70, années 80. Donc forcément, c'était logique d'utiliser ces claviers et d'aller vers ce style disco. On avait aussi... Je pense qu'on a besoin, et on l'a toujours fait, on a toujours eu besoin de jouer sur l'énergie, ce qu'on retrouve énormément en live. Et on avait besoin aussi de le transcrire dans un album, dans des morceaux enregistrés, ce qu'on était peut-être moins capable de faire avant. Et je trouve que le disco s'y prêtait bien, c'était quelque chose qui nous ressemblait bien et...
Alors, on entend les claviers, évidemment, dans cette première chanson. On entend aussi vos deux instruments, la batterie de Stéphane et la flûte traversière de Rachel. On en parle dans un instant. On va commencer par Rachel.
Couleur de nuit, mais c'est l'aurore qui s'imposa. L'ombre et la lumière dansent sur ma peau comme une toile de Degas. Dressée sur mes jambes, j'ai vu d'en bas ce que tu attendais de moi. Brave l'interdit, te mettant au défi, j'ai dansé sous tes yeux sans peur de ton mépris. Je ne saurais pas ce qu'il veut de moi, je veux lire en toi mon mode d'emploi. Dis-moi pourquoi le blanc serait roi, toi tu vois quoi en moi? Mélange ni harmonie. Silhouette gracile, tu m'as voulu docile et fragile. Ma propre voix est versatile, je suis bien plus qu'une poupée agile. Par provocation, j'ai creusé ce sillon, toujours plus têtu, je suis le tourbillon. Toujours plus habile, jamais tranquille, je n'ai jamais su rester paisible. Je ne serai pas ce qu'ils veulent de moi, je veux lire en toi mon mode d'emploi. Oh dis-moi pourquoi le blanc serait roi, toi tu vois quoi en moi? Je ne serai pas ce qu'ils veulent de moi, je veux lire en toi mon mode d'emploi. Oh dis-moi pourquoi le blanc serait roi, toi tu vois quoi en moi? Mélange ni harmonie, mélancolie, simple moi. Je suis un mélange ni harmonie, mélancolie, une symphonie pour toi.
simplement moi, Rosaway, qui est avec nous aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Est-ce que cette chanson, Rachel, c'est simplement vous ?
C'est simplement moi, oui.
Donc le métissage, une nouvelle fois, c'est la base de votre identité. En même temps, quand on entend la chanson, ce mélange unique, comme vous le chantez, on se dit que c'est pas si évident que ça, quoi. C'est une harmonie naturelle ou une harmonie difficile à trouver pour vous, le métissage ?
Ça a été difficile après, en fait, parce que moi, j'ai été élevée ici. En plus, j'ai été élevée que par ma mère, qui est blanche. Donc moi, je ne me voyais pas métisse. Et c'est dans les yeux des gens que j'ai vu. Mais plus tard, c'est arrivé, je ne sais pas, peut-être au lycée, un peu plus tard, où j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu différent. Et je n'ai pas mis le doigt dessus tout de suite, puisque j'ai pas, étant élevée dans une famille blanche, je n'ai pas eu... On ne m'a pas confrontée ou on ne m'a pas dit bah, c'est quelque chose qui peut arriver ou quoi. Et c'est après que j'ai compris que c'était quelque chose pour les gens. Et je crois que ce qui m'a vraiment marquée, c'est la première fois que j'étais aux États-Unis et que j'ai été considérée comme noire. Et ça m'a... J'ai pas compris, en fait. Parce que pour moi, j'étais ni noire ni blanche. Enfin, j'étais... autre chose.
Bon, une histoire d'harmonie, une histoire de blanche et de noire, ça nous ramène évidemment à la musique aussi, tout simplement. La musique, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ?
Ouais. Je suis tombée amoureuse de la flûte traversière à 5 ans. Je l'ai entendue dans une correspondance dans le métro. Je l'ai entendue, je ne l'ai pas vue. C'était la correspondance République.
Oui, donc un musicien du métro, c'est lui qui est à l'origine de votre carrière de flûtiste.
Exactement.
Qu'est-ce qui vous a attiré comme ça dans cet instrument ?
Le son, vraiment le son, puisque je n'ai pas vu la personne. Donc vraiment, c'était au bout d'un couloir et c'est le son. Et j'ai voulu aller voir et j'ai vu cette personne jouer. Je m'en souviens même pas, c'est pour dire que pour moi, c'est comme si j'avais toujours fait de la flûte, c'est marrant.
Parce que moi, je me suis dit que comme beaucoup d'élèves des écoles primaires, vous avez commencé par la flûte à bec.
Eh ben non.
Vous êtes une exception en France.
J'ai commencé par la flûte traversière directement.
Voilà, et donc cursus classique et sérieux, hein, le conservatoire quand même. Vous faites partie de cette caste assez singulière de musiciens qui adorent le solfège ?
Absolument pas.
Ah bon, très bien. On peut faire le conservatoire sans aimer le solfège.
Non, c'est juste qu'après, on voit l'intérêt.
Oui, quand même, oui.
C'est bon, ça.
Ça commence quand même par la difficulté, pour le coup. Là, pour la petite fille que vous étiez, quand même.
Ça commence par un côté, c'est pas fun.
Non.
Voilà, voilà.
Mais ça vous sert aujourd'hui, justement, ce cursus très classique, pour Rachel Ombrodan ?
Oui, ça me sert. Après, clairement, ça m'a aussi mis quelques petites barrières de venir du classique et d'aller vers une autre musique et de devoir réfléchir différemment, un autre langage. J'ai dû me réapproprier d'autres codes, mais oui, bien sûr, ça me sert au quotidien. Ouais.
Alors, diplôme national supérieur du conservatoire, diplôme d'État de professeur de flûte traversière classique, vous enseignez aujourd'hui ?
J'enseigne plus, non.
Non, mais vous avez gardé cette fibre-là aussi ?
Oui, j'ai enseigné pendant un petit moment, et puis après, voilà.
Alors, s'il y a une petite fille qui prend le métro et qui tombe sur un joueur de flûte aujourd'hui et qui nous écoute, qui aurait envie comme ça de commencer cet instrument, est-ce qu'il y a un ou deux conseils que vous pourriez lui donner à cette petite fille-là ?
Bah, de le faire.
Oui, c'est très bien.
Mais
quelles sont les qualités requises pour être une grande interprète de flûte traversière ?
Non, mais moi, je dis toujours, la musique, il n'y a pas d'aptitude particulière au départ, etc. C'est un apprentissage, en fait. Et je pense que ça passe d'abord par l'envie. Et je pense que... Et c'est vraiment... Et Steph, il a la même histoire que moi. C'est-à-dire qu'on est tombé amoureux de nos instruments. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas fait partie de ces enfants qui ont arrêté pour en essayer un autre. Ou comme, moi, j'en avais beaucoup, des élèves, leurs parents voulaient qu'ils fassent absolument du piano, alors qu'il voulait faire de la harpe, mais la harpe c'est trop compliqué, on a plus un piano à la maison. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui ne s'explique pas un coup de foudre.
D'accord, alors je suis pas un spécialiste de flûte traversière, mais instinctivement, je me dis que jouer de la flûte traversière et chanter en même temps, ça doit pas être si facile que ça. Flûtiste et chanteuse, vous en connaissez d'autres ?
Bah oui, il y a l'ISO.
Oui,
par exemple,
d'accord.
Qui ça lui a bien réussi.
Ouais.
Non, mais il y en a quelques. Ouais, il y en a d'autres. Ben en fait, c'est assez proche, hein, la voix et le son de la flûte traversière. C'est juste qu'il faut aller au sport, quoi.
Ouais, mais vous avez tout de suite voulu à la fois chanter et jouer de la flûte.
Non,
ça allait de soi.
Non, j'ai pas voulu tout de suite chanter. Ah. Moi, vraiment, j'étais flûtiste et je pense que je me définirais toujours comme flûtiste. J'ai même du mal maintenant à dire que je suis chanteuse. Pourtant, je chante plus que je ne fais de la flûte sur scène.
Oui.
Mais pour moi, mon ADN principal est flûtiste. Et puis, j'ai chanté, en fait. Et j'ai aimé ça. Mais ça a été vraiment le côté très... plutôt hobby, finalement, le chant. Et puis, quand on a voulu monter un groupe, Steph m'a dit bah, il va falloir que quelqu'un chante. Et apparemment,
c'est... Et Stéphane, visiblement, n'était pas
particulièrement... Apparemment, c'était pas lui.
Non, j'étais pas dispo à ce moment-là.
Bon, et d'accord, coup, très c'était, bien. C'était et donc, il a fallu que Raphaël s'y mette.
Non, mais je chantais avant, mais, mais voilà, j'ai endossé un autre rôle, ouais.
Voilà, et ça donne ça.
I've been here. No. 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 No.
St. James Infirmary par Rosaway dans VMDN sur RFI. Alors là, Stéphane Avellaneda, c'est un vrai standard américain là pour le coup. On est clairement de l'autre côté de l'Atlantique. Hein.
Complètement. On est complètement à la Nouvelle-Orléans.
Voilà, c'est associé effectivement au blues New Orleans, hein, comme on dit. C'est Louis Armstrong aussi hein, qui avait fait un enregistrement absolument incroyable.
Complètement.
Ce morceau,
hein. Complètement. En fait, il y a tellement d'artistes américains qui ont repris ce morceau.
Oui, plutôt des hommes d'ailleurs.
Plutôt des hommes, hein.
Ouais. Ouais. Donc là, vous aviez envie de faire tous les deux une version féminine de ce standard ?
Oui, je pense que d'une, c'est un morceau vraiment qui m'a toujours touché. Ayant vécu à la Nouvelle-Orléans aussi, ça, j'avais envie de ramener ça. Je pense que c'était important pour moi et de le traduire aussi du coup au féminin. Je pense que c'était c'était important.
Bon, alors vous le disiez à l'instant, vous avez vécu à la Nouvelle-Orléans, autrement dit. Patrie du blues, hein, New Orleans, c'est quand même assez extraordinaire. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé là-bas ?
Alors, je me suis retrouvé là-bas parce que à l'époque, je jouais avec une guitariste qui s'appelle Anna Popovich, qui est une grande guitariste de blues rock, et je tournais avec elle en Europe. Et après quelques mois de tournée, il y a des choses pour elle qui se sont déclenchées aux États-Unis, nouveau label, nouveau tourneur. Qui dit gros label, gros tourneur, grosse tournée. Et ils m'ont dit, nous, on déménage avec le manager, on part aux États-Unis. Et j'ai dit, je viens aussi,
oui,
du coup.
Vous n'avez peut-être pas hésité longtemps,
j'ai
j'imagine.
J'ai pas hésité longtemps. Ouais. Non, j'avais 23 ans et donc je suis parti en tournée là-bas. Je me suis installé d'abord à Memphis,
Tennessee.
Avec eux, à Tennessee. On avait des musiciens là-bas, des musiciens absolument incroyables. On avait le bassiste d'Al Green, on avait... On a tourné avec Tony Coleman, le batteur de B.B. King, aussi à deux batteries. J'ai passé beaucoup de temps en Californie. Et après ça, j'avais envie de m'installer à Nouvelle-Orléans parce que c'est là que la batterie est née.
Ouais.
Et pour moi, c'était extrêmement important de vivre ça au moins pendant une année. Et tout a pris son sens, en fait, quand je suis arrivé à la Nouvelle-Orléans. J'ai compris mes 15 ans d'entraînement et de conservatoire. J'ai compris pourquoi mon prof de percussion classique m'avait fait faire 3 heures de caisse claire devant un miroir. Voilà, et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'était pour ça.
Ah oui, d'accord. Donc vous aussi, vous avez cette formation classique conservatoire.
Oui,
moins fort en thème, mais vous aimiez le solfège aussi.
C'est ça.
Ou...
Je n'aimais pas
non
le solfège.
Plus, voilà,
mais
quoi,
par contre, comme Rachel, ouais. ça me sert énormément.
Oui. Bon, très clairement. Donc, vous êtes un enfant de la batterie. Vous êtes aussi le fils d'un musicien.
Oui.
Jean-Paul Avellaneda, guitariste et chanteur du groupe Mercy. Et Mercy, c'était ça. Train et le groupe Mercy et son leader Jean-Paul Avellaneda, votre père, donc Stéphane, c'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier ?
Complètement.
À la pédale plutôt.
À la pédale et aux baguettes, ouais. Et ma mère aussi qui est pianiste.
Ouais, oui, d'accord.
En fait, oui, complètement. J'ai dormi sous son piano pendant des années. Et en fait, je suis rentré dans le groupe Mercy de mon père quand j'avais 19 ans. J'ai fait 3 ans de tournée avec lui. Je jouais très souvent, hein, parce que avec lui j'ai fait mon premier concert quand j'avais 8 ans avec lui. Donc c'était la suite logique. Et grâce à lui, forcément, j'ai fait de la scène, j'ai fait des vidéos, je me suis fait un petit réseau avec des marques, j'ai commencé à avoir des sponsors, jusqu'à ce que le manager d'Anna Popovic me trouve sur les réseaux et m'envoie un message. Donc c'est clairement grâce à mes parents que voilà.
Bon, je demandais tout à l'heure à Rachel Ambrosane pourquoi la flûte. Je suis obligé de vous demander pourquoi la batterie. C'est peut-être tout simplement parce que Mercy a besoin d'un batteur, ou c'est plus compliqué que ça ?
Alors, c'est pas plus compliqué que ça, mais disons qu'à 2 ans, je tapais absolument partout.
D'accord. Pas
sur les gens. Alors, j'ai pas le souvenir, je ne crois pas, mais je tapais beaucoup sur la table. Je tapais énormément sur une barre qu'il y avait sous la table de la salle à manger de mes grands-parents. Je tapais avec les pieds. Ça faisait absolument résonner toute la... Je descendais et j'allais taper dessus.
Ouais,
et
vous aviez déjà le sens du rythme, déjà.
Alors, je sais pas si c'était vraiment incroyable, mais en tout cas, assez pour que mes grands-parents m'achètent une batterie.
Ouais.
Et voilà,
les voisins ont été ravis, j'imagine.
Alors, il n'y avait pas de voisins. Dans la maison, ça allait. Et en plus, j'avais la chance, du coup, ayant des parents musiciens, d'avoir un studio d'enregistrement une cabine de batterie insonorisée. Donc, j'ai pas eu de problème.
Bon, tout le monde ne peut pas être batteur. Alors là, pour le coup, il y a des vraies qualités requises. Vous n'allez pas me faire la même réponse que Rachel tout à l'heure. Hein.
C'est un peu le problème. Mais maintenant, il y a des batteries électroniques, il y a des pads qui font moins de bruit.
Oui, mais enfin, on triche, là.
C'est vachement moins fun.
Oui, bon. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire un bon batteur, Stéphane Avellaneda ?
Il faut être à l'écoute. Et il ne faut pas forcément une bonne batterie. Il faut juste aimer la musique, aimer partager, aimer soutenir les autres musiciens, parce qu'on est là quand même pour soutenir les musiciens et soutenir les chansons, particulièrement. Je pense qu'il faut, quand on est batteur, il faut être... aimer avoir beaucoup de pression sur ses épaules pendant tout un show. Et moi j'adore ça. Mais
voilà, donc d'un côté un batteur, de l'autre une flûtiste qui chante. Comment ces deux-là se sont-ils rencontrés ? Patience, bientôt arrive le récit de la rencontre.
Got a blend to play my
Don't Play the Game, Rosaway, Rachel Ambrosan et Stéphane Avellaneda dans VMDN sur RFI, extrait de l'album Girls chez Wrapped Up Records. Alors de quoi parle cette chanson, Rachel Ambrosan? Racontez-nous.
D'une préparation à un premier date. Comment les femmes se préparent pour aller à un rendez-vous, et c'est pas tout à fait comment elles se préparent, mais ce qu'on leur dit d'être comment elles doivent paraître pour ce premier rendez-vous.
Une histoire de pression.
Ouais.
De pression.
Oui, mais en fait,
regarde les autres.
Exactement. En fait, après le confinement, autour de nous, on a eu plein de couples qui se sont défaits et des couples qui essayaient de se faire. Et je me suis retrouvée dans des discussions avec des copines qui allaient en rancard. Et en fait, je me suis rendu compte de la pression que c'était et de ce qu'on leur disait. Non, mais tu devrais peut-être pas dire ça, peut-être pas au premier rendez-vous et tout. Puis moi, j'étais en couple depuis des années, et je me disais, bah non, mais fais bien ce que tu veux. Et en fait, on me disait, non, mais toi, Rachel, tu peux pas comprendre. Toi, t'es en couple depuis longtemps, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et en fait, je me suis rendu compte de cette pression de dingue. Et à côté, on avait des copains qui allaient en date et c'était pas du tout pareil pour eux. En fait, au contraire. Et du coup, je me suis rendu compte de cette pression qu'il y avait. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait plus une pression sur les femmes que sur les hommes.
Vous aviez conscience de ça, vous, Stéphane Avellaneda?
Absolument pas, malheureusement.
Donc, ça veut dire que l'album vous a permis aussi de porter un regard différent sur les femmes qui vous entourent?
Alors non, j'en avais conscience quand même depuis plus longtemps que ça. Mais c'est vrai que ça a été un beau travail quand même pour moi. Ce qui est quand même assez dommage d'avoir fait ce travail aussi tardivement, et de l'avoir fait avec Rachel. Je pense que c'était vraiment, ça m'a fait comprendre des choses, ça m'a fait avancer en tout cas, même si j'étais conscient de beaucoup de choses et que c'est un sujet qui me touche, qui m'affecte, qui m'affectait avant. Mais là, cet album, ouais, c'était beau et ouais, j'ai beaucoup appris.
Bon, alors sans parler de votre premier date, je ne sais pas si on peut parler comme ça, votre première rencontre, la rencontre entre vous, entre ces deux musiciens venus d'univers très différents, métissés tous les deux, mais avec cette passion de leurs instruments respectifs, chevillés au cœur et au corps, je ne sais pas ce qu'ils ont, peut-être un petit peu les deux. Alors, comment ça s'est passé?
Oh ben on s'est rencontrés bien avant de lancer le projet, en fait. On s'est rencontrés, oh là là, c'est cheesy de dire ça, on s'est rencontrés dans un mariage de musiciens, il n'y a rien de plus...
Décidément
Bah oui, mais ça colle au projet.
Et la première fois que j'ai entendu jouer Steph, il faisait du bal musette. En plus, tu avais joué et tu aimais ça. Et je me disais, mais ça ne va jamais s'arrêter, cette chanson. C'est très long.
Très bien. Vous préparez donc un album bal musette pour le 14 juillet? Non, peut-être pas. Non, pas encore. Bon, c'est pas prévu pour l'instant, mais bon, on va en parler.
On y pense.
Et donc, l'envie de jouer ensemble, elle n'est pas arrivée tout de suite?
Non, elle n'est pas arrivée tout de suite. En fait, on s'est d'abord connus en tant qu'humains. Et je pense que c'est vraiment, Rosaway, c'est vraiment une rencontre humaine. Et en fait, ça a été une évidence à un moment de créer tous les deux. Et je crois que ça a été la différence avec nos projets d'avant. C'est qu'on s'est bien trouvés humainement. Et je crois que c'est ce qui fait les groupes. C'est vraiment l'humain, vraiment.
Alors, on se dit, quand on est extérieur au projet, quand même, la batterie et la flûte traversière, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Stéphane Avellaneda, comment on fait justement pour associer les deux?
Alors, c'est vrai que on ne s'est pas posé de questions, en fait.
C'est le meilleur moyen d'avancer, mais,
non, mais c'est vrai, comme
ça
le...
peut être risqué.
Comme le disait Rachel, en fait, on avait envie de créer ensemble. On ne s'est pas dit flûte batterie, ça va être un problème. On a dit, en fait, on va juste monter un groupe, on va écrire nos chansons.
Les problèmes sont arrivés après.
Mais finalement, moi, j'ai toujours été un très, très grand fan des synthétiseurs, que ce soit analogique ou... j'adore les Moog, j'adore tous les synthés de toute époque. Et en fait, on s'est dit, le lien entre la batterie et la flûte et le chant, ça sera des synthés, que ce soit des synthés basses, des synthés avec...
Ça a l'air
des...
très simple, là, en vous entendant.
Et finalement, ça l'a été. En fait, les gens nous ont posé beaucoup de questions après, mais pour nous, c'était... Et ça ne l'est toujours pas, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est toujours en duo sur scène, avec plein de machines, et on joue nos synthés. Et voilà, je pense que ça nous correspond au style, à nos personnalités.
Let's do it!
Tes yeux d'un bleu séducteur soulagent les peines de mon cœur.
Blue sky smiling at me, nothing but blue skies do I see. Bluebird singing a song, s'envole de nos rêves. Les peines de mon cœur. Tes yeux d'un bleu séducteur soulagent les peines de mon cœur. Tes yeux d'un bleu séducteur soulagent les peines de mon cœur. Tes yeux d'un bleu séducteur soulagent les peines de mon cœur. Tes yeux d'un bleu séducteur soulagent les peines de mon cœur. Tes yeux d'un bleu séducteur soulagent les peines de mon cœur.
Skies Rose Away featuring Sean Martin dans VMDN. Sean Martin qui fait partie du groupe de jazz fusion Snarky Puppy. C'est le seul featuring du disque. Pourquoi avec lui?
Parce qu'on est tellement fans de Snarky Puppy. C'est pour nous. Je crois que d'ailleurs, c'est peut-être grâce à eux qu'on a monté ce groupe parce qu'en fait, eux, ils se sont pas posés de questions. Enfin, ils s'en sont sûrement posés, mais quand ils ont commencé, ils étaient 20 sur scène. Ils ont traversé les États-Unis dans des toutes petites voitures et ils font un jazz qui était pas ce qu'on attendait du jazz. Et en fait. Ouais, je crois que c'est vraiment fusion.
Ils sont pas posés de questions, ouais.
Et en fait, sur scène, c'est extraordinaire parce que chaque personnalité apporte quelque chose. Et je crois que c'est aussi beaucoup grâce à eux. Et il se trouve que Sean Martin a son projet solo chez Ropedope.
Donc le même label.
Et le même label, oui, pardon. Et en fait, quand on a enregistré cette chanson, on voyait vraiment un solo de synthé. Et on s'est dit, ouais, cap ou pas cap, on lui envoie un mail.
T'imagines si Sean faisait un solo, on a envoyé un mail et
voilà.
Et on a reçu Let's Do It.
Là encore, c'est tout simple. À vous entendre. Alors, on l'a entendu, c'est vrai sur cette chanson, c'est vrai aussi sur Midnight et sur d'autres titres. Il y a souvent justement ce bilinguisme, jongler entre le français et l'anglais. Ça, c'est important aussi pour vous, Rachel Ambreden?
Ben, en fait, c'est assez nouveau pour nous. Ça a quoi? Ça a 2 ans. Parce qu'avant, on était tout en anglais. Et puis les gens disaient, ouais, enfin les gens en France, disaient, ça serait bien que vous écriviez en français. Et je sais pas, on n'y arrivait pas. Vraiment, on n'y arrivait pas. Alors, je crois qu'on se cachait un peu derrière la sonorité en disant, non, mais nous, notre projet, il sonne anglais, il faut, voilà. Et je crois qu'en fait, je crois qu'on avait peur d'écrire en français. Je crois que d'écrire dans notre propre langue, en fait, on se dévoilait, on n'était plus des personnages et on a commencé à le faire un petit peu. Et en fait, on s'est dit que c'était très logique dans le cadre aussi de ce métissage musical, de ce métissage de nos goûts, etc., d'avoir ces deux langues.
Deux langues.
Et puis, je crois que ma voix sonne différemment dans les deux langues et ça nous permet aussi d'explorer d'autres couleurs, je crois, dans la même chanson.
Qui compose et qui écrit au sein de Roseway, Stéphane?
On écrit tous les deux. On écrit tous les deux. On a, suivant les morceaux, on n'écrit pas de la même façon. Rachel peut arriver, venir me voir avec un thème de flûte ou une idée de parole ou une idée ou juste un thème qu'elle va m'exposer. Ou parfois je vais avoir des grooves qui me viennent, donc un groove de batterie ou batterie électronique avec une basse ou un gimmick qui me vient. C'est vrai que ça dépend vraiment des morceaux.
Bon, et en cas de désaccord, qui tranche?
Moi, bien sûr.
Rachel.
was gentle like summer breeze. The shadow lingers as well free. In my reflection, I see a ghost. Memories of passion now turned to dust. Flame was hot and dark and cold. A tale of love that's now untold. Wake me up, it's over. Never ever be the same. Wake me up, it's over. I'll never ever be. My spirit dwells in silence, trapped where fear compels. I wonder why I stay so long in a love that's done so dark and wrong. But how did I find myself? Find myself.
Wake Me Up, une chanson sur les féminicides extraite de cet album Girls de Rose Away. Comment cette chanson est née, Rachel Ambrodan?
Alors, cette chanson, elle est née parce que tous les ans, on est horrifié par le nombre de féminicides. Mais je crois que l'élément vraiment déclencheur, ça a été le témoignage de cette comédienne. Évidemment, son nom m'échappe, qui a posté ses photos sur les réseaux sociaux de son visage tuméfié. Et j'ai entendu son témoignage sur France Inter. Et je me suis dit, mais quel courage d'en parler. Et elle disait qu'elle en parlait pour sa fille, pour elle et pour les autres femmes. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y aura jamais assez de voix pour parler de ça. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est la façon dont elle a parlé de cette emprise et de l'amour qu'on peut porter à la mauvaise personne et comment cet amour se transforme. Et j'ai trouvé ça d'une puissance, et voilà. Mais je crois qu'aussi, l'élément de fond, ça a été que pendant le confinement, nous, on a été confinés dans notre appartement à Paris et Paris a été déserté. Donc, nous, il n'y avait plus personne dans l'immeuble. Mais le troisième jour du confinement, on a entendu des cris. Et dans l'immeuble qui est vraiment collé au nôtre, il y avait une femme qui appelait à l'aide. Et les voisins couvraient les portes et les fenêtres et qui disaient « Vous inquiétez pas, madame, on a appelé la police, etc. » Et la police qui a littéralement défoncé la porte et qui a embarqué le mari. Et donc, en fait, on s'est dit « C'est vraiment à côté de nous, en fait. »
Alors, on va plonger à présent dans une bande dessinée qui nous emmène au Maroc et qui pose la question du droit des Marocaines à disposer de leur corps dans un pays où l'avortement est interdit, sauf si la santé de la mère est en danger. Des femmes guettant l'annonce, c'est le titre de cet album qui vient de paraître chez Sarbacane. Marjorie Bertin a conversé avec Fedwa Minsk et Aude Massot, les deux autrices.
Dans la lumière bleutée d'une salle d'opération, un médecin s'affaire entre les jambes d'une femme avec son scalpel. La patiente meurt dans une mare de sang. Ce drame est le point de départ d'une chasse aux médecins qui pratiquent l'avortement clandestin au Maroc, rendant très difficile la recherche de Lila, en compagnie de son amie Nesrine, bientôt rejointe par Malika, une mère de famille voilée qui, elle aussi, ne veut pas de sa nouvelle grossesse. Un contexte que Fedwa Misk connaît bien.
C'est une histoire que je porte en moi depuis plusieurs années, comme j'ai participé moi-même au débat national autour de la question de l'avortement clandestin. Et je m'en rappelle très bien parce qu'on avait tout donné et on était plein d'espoir. Et puis, il y a cette annonce qui tombe et qui ne nous rend pas justice puisqu'elle n'offre pas de solution véritable. Et donc, j'ai voulu un petit peu exprimer cette déception et rappeler qu'il y a toujours problème. Des femmes qui sont obligées d'avoir recours à des interventions dans des conditions terribles. Et donc, je voulais en parler. Et puis, je connais moi-même des personnes qui ont subi ces interventions-là. Donc, ça me touche à titre personnel.
Les trois amies partent sur les routes, de Casablanca jusqu'à Agadir en passant par Safi. Lila, jeune fille éduquée, émancipée, se croyait libre jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Depuis, ses nuits colorées en mauve ne sont que cauchemars. Nisrine, sa virulente et révoltée amie militante, et Malika, une attachante mère de famille aux formes généreuses, épuisée par son travail et la gestion de ses 5 enfants. 6 avec mon mari, dit-elle. Une femme pieuse aussi.
Je voulais briser des clichés autour de la question de l'avortement parce que très souvent, lorsqu'on pense avortement, on pense à une femme à la sexualité débridée qui ne fait pas attention, complètement irresponsable et qui mériterait du coup ce qui lui arrive. Alors que dans beaucoup de cas, ce sont des femmes aussi mariées qui ne peuvent pas avoir un enfant pour une raison ou pour une autre. D'ailleurs, pour la plupart du temps, pour des questions économiques. Et ces femmes-là, on les entend jamais. Donc, j'ai voulu décharger l'IVG de sa charge morale pour la ramener à une question de santé publique.
Sur leur route, les jeunes femmes croisent des personnages hauts en couleur et vivent des situations rocambolesques. Une amie fortunée de Malika ferait bien de Lila sa mère porteuse. Un médecin drogué propose de faux médicaments abortifs. Ou encore une sorcière. Dans cette course contre la montre, leurs regards sont souvent ahuris, interloqués. Ces femmes sont dessinées avec grâce et vivacité par Aude Massot, qui s'est rendue plusieurs fois au Maroc pour élaborer ce livre.
Quand j'ai envie de donner le sentiment de vitesse ou de vivacité, bah, j'essaie de faire des traits plus cartoon. Donc là, je déforme un peu, je vais mettre des traits pour simuler la vitesse, etc. Et du coup, dans la BD, j'alterne des cases plus calmes, où là, on pose le décor, c'est un peu plus lent. Je vais mettre des cases silencieuses entre des passages dialogués pour essayer de simuler l'impression de lenteur. Et puis quand ça va plus vite, bah là, paf, 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 on peut mettre des dialogues un peu plus resserrés. Donc ça veut dire que pour une course, je vais faire 3 cases alors que ça dure même pas 1 minute. Et parfois, pour simuler la lenteur, je vais mettre beaucoup plus de cases silencieuses, par exemple, sur des temps longs, etc.
Des femmes guettant l'annonce est une bande dessinée émouvante, parfois drôle, terriblement essentielle.
Reportage de Marjorie Bertin pour VMDN. En France, le droit à l'IVG est inscrit dans la Constitution depuis le 8 mars dernier. Rachel Lombrodane, le jour d'ailleurs de la sortie de votre album, vous y voyez un symbole important, cette inscription dans la Constitution?
Oui, j'y vois surtout un enfin, je crois. Surtout quand on voit des pays comme les États-Unis qui sont en train de revenir gravement sur ça, je pense que c'est un symbole fort. C'est un symbole fort, oui.
Merci, merci beaucoup à tous les deux, Rachel et Stéphane, d'être venus nous voir dans VMDN sur RFI. Girls, l'album de Rosaway est disponible chez Ropedop Records. Et puis vous serez en concert, alors il y a toute une liste, hein, en Croatie les 5 et 6 juin prochains à Zadar et à Zagreb le 29 juin. Au festival Quand on chante, dans les Hauts-de-France, donc dans le nord de l'Hexagone, le 30 juin à Comblaville, en région parisienne, le 5 juillet au festival Voilà l'été à Épernay en Champagne, autrement dit chez Marjorie Bertin, qu'on vient d'entendre là pour nous parler de la bande dessinée. Ça continue au mois d'août, le 1er août au Game of Thrones Festival des Ors dans les Hautes-Alpes, le 9 août au Vendredi de l'été de Lons-le-Saunier dans le Jura, à suivre aussi le festival Snap Jazz de Pont-l'Abbé en Bretagne, le 25 août et le 30 août, vous serez à Bonn en Allemagne. Voilà, et ça continue encore après. On peut aller sur Internet. On va se quitter avec Jane, que vous avez accompagnée, je crois, en tant que choriste, Rachel.
Oui.
Charm. light year glow, stardust bees, a galactic rose. Big Bang dreams of painted blue, lion love is shining through. And you know that I look up to you, starry, starry night.
Cosmic Love Jane dans la playlist RFI de ce mois d'avril. Dans un instant, le journal en français facile sur RFI. On se retrouve demain, bien sûr, pour découvrir en bande dessinée les arcanes de l'Union Européenne avec le nouvel album de Coco Pelo. C'est plein d'humour et d'ironie et vraiment on apprend plein de choses. Ça s'appelle La Tour de Babel, voyage au cœur du grand bazar européen. C'est une coédition d'Argo Le Seuil et vous m'en direz des nouvelles.